Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch, le rendez-vous de l'actu tous les matins, même en ce lundi de Pâques. Je savais pas qu'il fallait pas travailler, donc je suis venu quand même. Et on voulait absolument partager avec vous, amis de YouTube, eh bien, ces dernières infos sur l'Iran. Parce que, pour le dire simplement, dans ce conflit, il se passe des dingueries. J'ai trois articles à vous montrer et croyez-moi, les trois sont vraiment essentiels et passionnants. À supposer qu'on peut dire passionnant pour quelque chose d'aussi grave. Le premier, c'est l'article du Parisien qui nous parle d'une escalade dans ce conflit avec le président américain qui décide, qui menace désormais d'attaquer les ponts et les centrales mercredi, dans deux jours, si le détroit d'Hormuz ne rouvrait pas. Va-t-il le faire? Ne le fera-t-il pas? Il est habitué aux menaces, quitte à reculer après, c'est même une méthode qu'il assume. On verra. Je vous lis l'article d'Anissa Amadi. Dans un message truffé d'insultes, Donald Trump a menacé de frapper les centrales énergétique et les ponts en Iran mercredi si le détroit d'Hormuz passe une grosse partie, vous savez, du trafic pétrolier mondial, de l'ordre de 20% et aussi du gaz, n'est pas rouvert d'ici là. Et là, deux points, ouvrez les guillemets, je n'invente pas ces mots, il les a vraiment prononcés, en tout cas écrits sur internet, c'est bien le président américain qui parle, vous n'êtes pas prêt, Trump a écrit, deux points, ouvrez les guillemets, ouvrez le putain de détroit, c'est une traduction, hein, espèce de taré. Les tarés, c'est les Iraniens, où vous vivrez en enfer, vous allez voir. Point d'exclamation, a écrit le président américain. Dans notre langage, nous, on dit, on appelle ça le fou du bus. Quelques jours plus tôt, il annonçait pourtant aux Américains, allergiques aux guerres interminables, que l'opération prendrait fin d'ici deux ou trois semaines. Du Trump tout craché, oscillant sans cesse entre menaces et discours rassurant. Cette fois, un événement historique explique en partie ce brouillard habituel. Vendredi, l'armée américaine a pour la première fois dans ce conflit perdu deux avions et deux hélicoptères abattus par l'Iran. Deux pilotes ont été rapidement secourus, un troisième demeurait introuvable en terre ennemie. Vous le savez sans doute si vous suivez l'actualité, il a été finalement récupéré au terme d'une opération rocambolesque digne d'une mission impossible. Donc effectivement, ce soldat aujourd'hui a été récupéré, ce militaire, ce copilote, si je ne dis pas de bêtises, celui qui était chargé des systèmes embarqués sur l'avion. Ce qui aurait pu être un désastre politico-militaire se transforme en victoire. Sur les plateaux télé, des généraux à la retraite soulignent la complexité, la dangerosité de la mission de sauvetage que seuls les États-Unis sont capables de mener. C'est une opération assez complexe. Et du coup, certains en profitent. L'admiration efface l'humiliation. La pièce aurait pu tomber du mauvais côté. Militaire américain tué, militaire américain capturé par les forces iraniennes. Mais avec moi, les États-Unis ont de la chance, croit Donald Trump. Cette bonne fortune ne va pas le calmer du tout, renforce mécaniquement une forme d'hubris, d'outrance de démesure, alimentée par le dépit. Il voit que le régime iranien ne cède pas, donc il menace d'aller toujours plus loin, résume un chercheur, David Rigolet-Rose. L'Iran a fait savoir qu'il ne se plierait pas à l'ultimatum, décrivant le président américain comme instable, énervé et stupide. Plusieurs observateurs du conflit s'inquiète du risque de forte escalade. En réalité, elle a déjà commencé, écrit le Parisien ce lundi matin. Des usines pétrochimiques ont été touchées en Iran, en représailles, une usine de dessalement et deux centrales électriques ont subi des dégâts au Koweït. C'est comme s'ils avaient anticipé les chances de mardi soir. Une nouvelle étape a déjà été franchie. Le Koweït qui dépend à 90% du dessalement d'eau de mer pour survivre. Le sujet de l'eau encore plus sensible que celui du pétrole. Cela pourrait pousser les pétromonarchies, donc les pays du Golfe, à entrer en guerre. Parce que ces frappes de plus en plus lourdes contre les pays du Golfe, là on parle d'une usine de dessalement par exemple, de l'eau, pourraient laisser certains penser que bah, les pays du Golfe vont faire pression sur les États-Unis pour que cesse le conflit. Ou c'est l'inverse. Les pays du Golfe, qui au fil de ces dernières années ont constitué des forces militaires parfois importantes à grand renfort d'investissement, pourraient tenter de rentrer à leur tour dans le conflit. La guerre d'infrastructure fait craindre une ukrainisation de la région. L'administration Trump ne saisit pas. Alors, ukrainisation, je trouve que c'est pas très clair. Ah, le fait que d'autres pays interviennent. Alors, je trouve que c'est un peu impropre parce que dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, enfin bon, la résistance de l'Ukraine à l'invasion russe, pour dire les choses, vous avez des pays qui sont associés effectivement, mais pas directement, c'est-à-dire par un soutien, livraison d'armes, financement, quoique vous avez des soldats nord-coréens, mais bon, à la marge. Donc là, on parle quand même de pays du Golfe qui rejoindraient l'armée américaine et israélienne dans leur frappe. Mais je pense que vous avez raison, c'est plus pour le côté enlisement du conflit. On est à plus de 4 ans de guerre en Ukraine, que ce concept d'ukrainisation évoqué par le Parisien renvoie. Ce qui serait une catastrophe pour l'économie mondiale, parce que vous savez que l'économie mondiale, et notamment européenne et française, sont déjà touchées, et pas qu'un peu. Si on part sur un conflit de plusieurs mois, et pas plusieurs semaines, comme pourtant l'a annoncé le président Trump, voire plus de plusieurs mois, on va avoir des conséquences dans notre quotidien. L'administration Trump ne saisit pas pleinement ce qui motive la République islamique, déplore sur X le chercheur israélien Dani Citrinovitch, un spécialiste du Moyen-Orient, parce que notamment dans ses tweets, Trump dit, mais je comprends pas pourquoi ils se rendent pas. Bah, tu comprends pas parce que je crois que tu ne fais pas d'efforts, quoi. Pardon, hein. Face à la pression, l'Iran est plus enclin à escalader qu'à céder. Et pardon, hein, je suis pas un spécialiste de la région, mais c'est dans le logiciel du régime islamique depuis toujours, hein. Bah, il suffit de se pencher sur l'histoire de la région et des relations avec les États-Unis. Les États-Unis, depuis toujours, pour le régime islamique iranien, c'est le grand Satan. Ils vivent notamment par ce bras de fer, quoi. Donc, c'est pas du tout, face à la pression, l'Iran est plus enclin à escalader qu'à céder. Trump devra décider escalader davantage ou arrêter. Mais une chose est claire, l'Iran est peu susceptible d'ouvrir l'étroit d'Hormuz, même dans des scénarios extrêmes tels qu'une opération terrestre sur l'île de Karg. Malgré la puissance américaine, les systèmes de commandement de l'Iran demeurent intacts, cela se traduit par des tirs de missiles continus, moins nombreux mais plus précis, une défense aérienne encore active. Les Américains et Israéliens pensaient avoir détruit la défense aérienne iranienne. Manifestement, une partie demeure, sans doute cachée, enterrée, dit-on, d'où les destructions récentes d'appareils américains. Ce qui émerge alors n'est pas un chemin vers la fin du conflit, mais une trajectoire vers l'expansion, trajectoire qui augmente les coûts. Le coût militaire et économique pour les États-Unis est gigantesque actuellement. Trump vient de demander une rallonge gigantesque au Congrès pour la défense américaine, pour l'armée américaine. Argent qui ne sera pas fléché vers autre chose, hein, la santé, l'économie, le soutien aux entreprises. Une trajectoire qui augmente les coûts, l'incertitude et les risques systémiques sans offrir un état final stratégique clair. L'entourage du président participe à cette myopie. La chef de cabinet de la Maison-Blanche, aurait demandé que Trump voie moins d'adorateurs zélés et davantage de militaires chevronnés, selon le Time. Elle s'inquiéterait du fait que les conseillers du président lui disent ce qu'ils veulent entendre, quitte à déformer la réalité sur le terrain. En parallèle, c'est pas tout. Le secrétaire d'État à la Défense, un ancien journaliste, si je dis pas de bêtises, Pete Hegseth, notoirement inexpérimenté, vient de mener une purge au sein de l'armée. L'ex-présentateur de Fox News a limogé le 2 avril le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George. D'après ce que j'ai lu, on sait pas bien pourquoi d'ailleurs. Jusqu'à présent, ni Donald Trump, ni Pete Hegseth ont été capables d'expliquer comment la guerre prendrait fin. L'armée la plus puissante du monde bute sur les villes souterraines de missiles iraniens, je vous le disais. Le seul moyen de les neutraliser, c'est avec des armes nucléaires. Trump oserait-il ? Là, ce matin, en lisant cet article, je me suis arrêté un instant. Là, j'ai eu 10 secondes, je me suis dit... Il n'aime pas ça et pour l'instant aucun signe ne le montre, explique Étienne Marcus, spécialiste de la dissuasion nucléaire. Pour le chercheur, cette option, l'utilisation d'armes nucléaires, est toutefois plus crédible qu'une invasion terrestre. Dans tous les cas, ce sont de mauvaises options. Ça m'a réveillé ce matin quand j'ai lu ça. Ce serait la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis Hiroshima, Nagasaki, qu'on utiliserait l'arme nucléaire dans un conflit militaire, quoi. On en est là. Donc quelqu'un me disait tout à l'heure, oh c'est bizarre, l'actu, c'est un peu tous les jours la même chose. En termes de tension, ça, on monte un peu, quoi. Voilà, donc ça c'est le premier article. J'en ai deux autres à vous proposer pour éclairer un petit peu l'évolution de ce conflit, parce que c'est toujours le même conflit, mais il est en train de se transformer. Et là, on a un article du Monde, cette fois, qui nous dit que, eh bien, après surtout des infrastructures militaires frappées, eh bien, les frappes israéliennes et américaines frappent de plus en plus des infrastructures civiles, y compris des infrastructures de santé. Iran, les infrastructures civiles de plus en plus visées, les frappes se sont étendues aux ponts, aux aciéries, aux structures liées au secteur de la santé, essentielles pourtant pour la population. Voilà. Quels sont les buts de guerre de Trump ? On n'a jamais trop su, puisqu'il a dit des choses contradictoires. Est-ce une guerre pour le peuple iranien ? L'article qui suit nous permet d'en douter. Au lendemain de l'allocution télévisée du président américain, Trump, mercredi 1er avril, dans laquelle il promettait de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Déjà, dans cette déclaration de la Maison-Blanche, quand il promet de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, pardon, hein, mais il ne parle pas du régime islamique. Il ne parle pas du régime des mollahs. Il n'a pas dit « je vais renvoyer le régime des mollahs, le régime islamique, les dirigeants de ce pays à l'âge de pierre ». Il dit « je vais renvoyer l'Iran à l'âge de pierre ». Le pays, les Iraniens, les Iraniennes. Donc au lendemain de cette allocution, l'Institut Pasteur d'Iran, alors qu'il n'y a pas de lien avec notre Institut Pasteur, hein, c'est le même nom mais il n'y a pas de lien, l'Institut Pasteur d'Iran, le centre médical et de santé publique le plus ancien, le plus prestigieux du pays du Moyen-Orient, situé à Téhéran, a été gravement endommagé lors d'une attaque aérienne. Ni les États-Unis ni Israël n'avaient, samedi matin, revendiqué cette frappe. Mardi, des frappes distinctes avaient touché une entreprise qui est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques d'Iran, spécialisée dans la production de médicaments anticancéreux et d'anesthésiques, selon Téhéran. Le lendemain, l'armée israélienne a affirmé que cette société touchée figurait parmi les principaux fournisseurs de fentanyl de l'organisation SPND, qui est le programme nucléaire à possible dimension militaire de l'Iran, pour être utilisé dans la recherche et développement d'armes chimiques. Ça, c'est l'explication d'Israël. Jeudi, un pont suspendu en construction reliant Téhéran à Karaj sur la route qui mène jusqu'à la mer Caspienne a été bombardé à deux reprises par des avions américains. Selon des médias iraniens, au moins 8 personnes ont été tuées, près d'une centaine blessées, parmi lesquelles des familles venues pique-niquer à l'occasion de la fin des vacances du Nouvel An iranien. Quelques heures plus tard, cette fois, cette attaque a été revendiquée par Trump. Le plus grand pont d'Iran s'est effondré, ne sera plus jamais utilisé. Notre armée n'a même pas encore commencé à détruire ce qu'il reste en Iran. Ensuite viendront les ponts, puis les centrales énergétiques. a-t-il prévenu, assumant, c'est ce que je vous disais, une confusion entre le régime et les moyens de subsistance de la population. Quand il dit qu'il va renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, il parle du pays. Les États-Unis ont lancé les premières frappes contre les infrastructures civiles majeures en Iran avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Trump pour lundi 6 avril. Trump qui paraît s'étonner que Téhéran n'ait pas encore accepté un deal, puisque, et il l'assume, lui, il fonctionne comme ça, Trump, depuis toujours. Homme d'affaires devenu président, on fait des deals. Voilà. Il comprend pas que Téhéran accepte pas son deal. Pourquoi n'appellerait-il pas? Nous venons de faire exploser leurs trois plus gros ponts la nuit dernière. Trump, il attend un coup de fil de l'Iran qui dit, ouais, en fait, vous êtes trop fort pour nous, quoi, on laisse tomber, quoi. Sauf que, a priori, dans le logiciel iranien, ça n'a jamais marché comme ça, quoi. De son côté, Israël a frappé assez tôt dans le conflit des installations civiles, notamment des centres de soins, mais sa priorité opérationnel demeurait d'affaiblir le régime et d'encourager les Iraniens à le renverser après-guerre. Les autorités de l'État hébreu affirmaient alors, de manière relativement plausible, écrit Le Monde, que les forces armées et de sécurité intérieure iraniennes s'étaient réfugiées dans des centres civils pour poursuivre leurs activités, loin des quartiers généraux bombardés un par un. À mesure que les frappes s'étendent à un nombre croissant d'infrastructures civiles, ces arguments, estime Le Monde, également perdent en crédibilité. Les premières frappes israéliennes contre des dépôts de carburant près de Téhéran, puis contre un champ gazier, ont suscité les premiers désaccords avec Washington, parce que Washington est extrêmement inquiet de l'explosion du prix du cours du brut, et frapper le pétrole iranien, ben, ça contribue à cette crise. L'administration Trump, craignant une hausse brutale du prix de l'essence, avait exprimé sa désapprobation. Depuis, les frappes se sont accentuées. Les deux principales aciéries du pays ont été frappées fin mars, début avril, le signe d'une perte de confiance dans l'hypothèse d'une révolution iranienne, alors que l'ambition initiale consistait à affaiblir le régime afin de permettre à des manifestations populaires de le renverser après-guerre. Est-ce que l'un des objectifs de guerre des Américains israéliens est toujours de libérer le peuple iranien, de créer des conditions pour que les Iraniens puissent se soulever, descendre dans la rue et déposer le régime? Le Monde dit aujourd'hui, manifestement, cet objectif, à supposer que ça a été un objectif, est oublié. La priorité semble se déplacer vers d'autres buts, alors que la guerre a déjà duré plus longtemps que la plupart des experts militaires israéliens ne l'imaginaient. La destruction méthodique du complexe militaro-industriel de l'Iran, la nécessité de satisfaire Trump en cessant un temps de viser les principaux responsables du régime et ses potentiels négociateurs, celle de faire plier l'Iran pour le contraindre à rouvrir le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, l'objectif de cette guerre, aujourd'hui, à court terme, c'est de faire ouvrir le détroit d'Ormuz. L'idée était peut-être au début de susciter des divisions au sein du régime et de faire douter les officiers de la sécurité intérieure, voilà, avec une scission en interne, hein, avec peut-être un coup d'État, pour favoriser un coup d'État. Mais plus la guerre dure et touche les civils, plus cet objectif s'éloigne, assure Shahar Kaufman, ancien chef du bureau Iran de la division de recherche du renseignement militaire israélien. Ces hommes, on parle des cadres du régime, vivent aujourd'hui de grandes heures de résistance. Lorsque nous visons les infrastructures, ils ne défendent plus seulement le régime, mais aujourd'hui le pays. Selon une ONG, Human Rights Activists New Agency, les frappes contre l'Iran ont fait 1606 morts civils, dont au moins 244 enfants et 1212 morts militaires. Plus de morts civils que de morts militaires. Par ailleurs, vous avez 709 décès supplémentaires qui font l'objet d'une enquête. Je vous lis pas tout l'article, je vous lis les passages les plus essentiels. L'extension du ciblage aux structures civiles essentielles, comme celle du domaine de la santé, soulève des inquiétudes croissantes sur le plan du droit humanitaire. Jeudi, plus de 100 juristes américains, dans une lettre co-signée par des professeurs des universités, se sont alarmés de sérieuses violations du droit international et de la rhétorique alarmante de Washington. L'inquiétude s'étend au secteur sanitaire. Vendredi, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dénoncé les multiples attaques visant des établissements de santé, précisant que plus de 20 de ces attaques contre des structures de santé ont été vérifiées. L'article disait au début, fondé en 1920, l'Institut Pasteur d'Iran, sans lien direct avec son homologue parisien, est désormais hors service. Ce centre fournissait plus de 50% des vaccins du pays, produisant annuellement plus de 15 millions de doses, principalement pédiatriques, tuberculose, poliomyélite, hépatite. En détruisant ou en paralysant l'Institut Pasteur, ce n'est pas seulement une capacité de production qui disparaît, c'est tout le système de surveillance microbiologique, de prévention des épidémies, de réponse sanitaire d'urgence. Selon un professeur de la faculté de médecine du groupe hospitalier universitaire de Paris-Créteil, la PHP, qui s'appelle Iraj Sobani, qui est peut-être d'origine iranienne, il dit « En cas aujourd'hui d'atteinte au réseau d'eau potable ou d'assainissement, le pays serait exposé à un risque majeur de catastrophe infectieuse, notamment en temps de guerre ou de catastrophe naturelle. » Voilà où on en est de ce conflit aujourd'hui. Donc, encore une fois, la personne qui me disait « Ah, j'ai l'impression que l'actu, c'est un peu tous les jours la même chose », pas trop, non. C'est l'escalade dont parlait le Parisien tout à l'heure. Troisième article sur le même sujet, les conséquences économiques. Là, depuis plusieurs semaines que dure le conflit, on s'est déjà dit que plus le conflit allait durer, plus les conséquences économiques allaient être fortes, quoi. Et donc Trump annonce régulièrement à destination des marchés que la guerre va s'arrêter. Bon, ben là, ça dure. Troisième article ce matin, l'impact sur l'Europe et des Européens qui s'inquiètent de plus en plus. Choc énergétique, spectre de l'inflation, croissance ralentie. Les indicateurs de mesure des répercussions du conflit au Proche-Orient donnent des sueurs froides aux autorités de l'UE. Lisons. Article de Clément Solal, correspondant à Bruxelles, du Parisien. Un conflit lointain. Je me rappelle au début de la guerre en Iran, il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait une ou deux personnes qui passent dans le chat en disant mais pourquoi on parle de l'Iran ? C'est loin, c'est pas notre guerre, ça nous concerne pas. Il faudrait mieux parler des vrais problèmes de la France. Tiens, cet article est pour toi. Un conflit lointain qui ne devait pas durer et dont les perturbations sur le commerce du pétrole et du gaz affecteraient surtout l'Asie. C'est d'abord ainsi que les dirigeants européens ont évalué l'impact de la guerre en Iran déclenchée fin février par les États-Unis et Israël. Les jours passant, ils ont compris que Trump n'avait pas le début d'une stratégie pour mettre fin aux hostilités. Ils ont aussi compris que si les pays asiatiques sont les plus exposés à la crise, aujourd'hui économiquement, quelqu'un parlait du Pakistan tout à l'heure, il y a des vraies conséquences économiques là, radicales là-bas, le vieux continent ne sera pas épargné. Le vieux continent, c'est nous. Fin mars, Bruxelles a pris conscience de la gravité de la situation, une série de premiers indicateurs statistiques donnant corps au choc économique en cours. L'inflation le mois dernier en zone euro a bondi de 1,9 à 2,5%, c'est le plus haut niveau depuis début 2025. Les prix dans l'Union européenne ont augmenté d'environ 62% pour le gaz, 60% pour le pétrole. Et cela pourrait encore enfler dans les prochaines semaines, l'ampleur des dégâts s'annonçant proportionnelle à la durée du blocage du détroit d'Hormuz. Là, littéralement, on dit pas merci à Trump, quoi. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que les prix de l'énergie se répercutent sur d'autres secteurs. L'alimentation, les biens, dit un économiste. Le spectre de l'inflation, par exemple, qui avait déjà miné les économies européennes en 2021, entre 2021 et 2023, reprend des couleurs. L'UE risque de subir un choc stagflationniste, donc c'est l'enfer, c'est le pire, c'est des prix qui montent et en même temps une croissance ralentie. D'après l'UE, la croissance pourrait ralentir en 2026 et 2027 jusqu'à 0,6 points de pourcentage par rapport à 2025. Un coup de frein potentiellement majeur pour l'Europe qui aurait des répercussions sur la consommation, sur les finances publiques, sur l'emploi. Un pays comme la France, avec son endettement, la charge de sa dette. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Les caisses sont vides, les taux d'intérêt et donc la charge de notre dette explosent et on nous dit que ça va s'aggraver. Si la situation devait dégénérer en un conflit régional à grande échelle, les pays du Golfe par exemple qui se mettraient à taper sur l'Iran, elle pourrait peser sur l'Allemagne et l'Europe encore plus lourdement de ce que nous avons connu avec la pandémie. Alors je ralentis cette phrase parce qu'elle est importante. Peser sur l'Allemagne et l'Europe encore plus lourdement que ce que nous avons connu avec la pandémie de Covid-19 ou au début de la guerre en Ukraine. L'Allemagne est très dépendante du pétrole et du gaz, ils ont, notamment parce qu'ils n'ont pas nos centrales nucléaires, les rares qu'ils avaient, ils ont décidé de les fermer. L'Italie, très dépendante du gaz étranger aussi, a prévenu le chancelier allemand Friedrich Merz le 30 mars. Friedrich Merz, donc le chancelier allemand, qui souhaite que cette guerre se termine le plus vite possible. L'Allemagne, première économie de l'UE, serait la première à pâtir d'une guerre longue. Son industrie, déjà en grande souffrance, est très sensible au prix de l'économie. Certains disent que l'Allemagne, c'est aujourd'hui un pays, l'homme malade de l'Europe, l'économie allemande, elle est très impacté. Son industrie souffre beaucoup. C'était la grande force de l'Allemagne par rapport à la France très longtemps. C'était la force de son industrie, avec la France qui était un pays de moins en moins industriel, l'Allemagne qui était toujours. Aujourd'hui, l'industrie allemande, avant cette crise, elle est impactée. C'est un peu compliqué. Et donc, on a des chiffres de croissance en Allemagne qui sont en train de se détériorer. Et c'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est la première économie de l'Union européenne. Quand l'Allemagne tousse, toute l'Europe tombe malade. La mauvaise politique du président Trump a un impact direct sur le portefeuille des citoyens, a dit encore le ministre des Finances allemand. Italie, je vous en parlais, deuxième puissance industrielle européenne devant la France. Contrairement à la France, pays très dépendant du gaz, le ministre italien de la Défense a expliqué que les effets de la guerre en Iran sur l'économie et notre vie quotidienne l'empêchaient de dormir. Aveu de faiblesse rare, tant les responsables politiques s'efforcent généralement de rassurer les consommateurs, les entreprises, conscients que l'économie est aussi affaire de confiance, et l'inquiétude se propage. L'indicateur du sentiment économique, une donnée mesurant la foi globale dans l'économie de l'UE, est en forte baisse. La Commission européenne, qui implore les 27 de ne pas abuser de mesures dispendieuses et non ciblées, baisse de taxes, subventions généralisées, par exemple, pour que certains me parlaient, par exemple, des blocages des prix, par exemple, aide aux Français, aux Françaises, par exemple, pour le plein d'essence, blocage des prix, au risque de dégrader encore davantage leurs finances publiques. Je vous l'ai dit, les caisses sont vides. Voilà. La France, elle, ne semble plus en avoir les moyens, même en cas de crise majeure en France. Là, aujourd'hui, l'État devrait répondre. Et les gars, on peut rien faire. Il n'y a plus de sous. À moins de continuer à laisser exploser la dette, la charge de la dette. Mais là, le tableau est un peu apocalyptique. Enfin, apocalyptique. Vous inquiétez pas, là, on s'en remettra. Mais voilà, cette guerre en Iran déclenchée par les États-Unis et en Israël, cette guerre a ces conséquences-là aujourd'hui. Ah, évidemment, si ça s'arrête demain, la plupart de ces inquiétudes vont se dissiper, quoi. Même si, par exemple, le marché du pétrole va être impacté longuement parce que toutes les infrastructures frappées aujourd'hui dans la région, que ce soit dans les pays du Golfe ou en Iran, pour les faire redémarrer, ça va prendre des mois et des mois et des mois. Mais si la guerre s'arrête demain, il y a une partie de ces impacts économiques négatifs qui vont être dissipés. Mais rien ne dit que cette guerre va s'arrêter demain. Amis de YouTube, on va continuer sans vous. On vous laisse sur le côté parce que la revue de presse, elle dure 3 heures, donc je vais pas vous infliger ça. N'hésitez pas à venir le matin sur Twitch. Il y a la revue de presse tous les jours. Voilà, on voulait partager avec vous ce dossier sur l'Iran ce matin. Oh, cœur sur vous sur YouTube. Ils sont trop gentils.